ma grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Eh bien, comme la fois dernière, cette interview a été réalisée au festival des minorités de Douarnenez. Et aujourd'hui, ce n'est pas un bohémien que nous allons rencontrer. Non, c'est un gadjo. Mais ce gadjo est avocat à Marseille. Et c'est lui qui a plaidé devant le Conseil constitutionnel pour remettre en cause le carnet de circulation. Et il a gagné. Nous écoutons donc Maître Olivier Lemayou.
Je suis en face d'Olivier Lemayou. Olivier Lemayou, je devrais dire Maître Olivier Lemayou, puisqu'Olivier est avocat. Bonjour Olivier.
Bonjour, effectivement, avocat au barreau de Marseille, je suis ravi d'être avec vous.
Alors, si j'ai bien compris, hein, parce que je suis toujours au festival du film de Douarnenez, je rencontre des tas de gens, on me présente des tas de gens, et si j'ai bien compris, tu as une petite spécialité dans ton métier d'avocat, et tu t'occupes des gens du voyage.
Oui, absolument, des gens du voyage, des forains, des voyageurs, afin de les défendre dans les difficultés qu'ils rencontrent. Et ils en rencontrent malheureusement énormément sur le plan juridique et sur le plan sociétal.
Est-ce que tu peux justement nous dire la spécificité de cette action que tu ne retrouverais pas chez un Français normal, j'allais dire?
Alors absolument, puisque j'ai eu la chance de pouvoir défendre un forain qui était titulaire de titre de circulation. Et nous avons pu mener une action devant le juge administratif, puis devant le juge constitutionnel, afin de faire déclarer inconstitutionnel ce type de titre de circulation. Nous avons également du contentieux concernant l'hébergement et l'électricité, le raccordement à l'électricité, l'occupation de terrain, les aires de stationnement, l'occupation du domaine public, plus spécifiquement avec les fêtes foraines, évidemment, plus généralement, l'accès aux droits fondamentaux des citoyens voyageurs et nomades.
Si j'ai bien compris, à force de rencontres, pendant très très longtemps, les gens du voyage, j'allais dire, baissaient la tête devant la loi, et ils commencent maintenant à la relever et ne pas hésiter à faire des actions juridiques.
Absolument, et ça c'est une spécificité qui est nouvelle depuis quelques années. Jadis, les gens du voyage avaient peur finalement d'agir en justice parce qu'ils considéraient que porter plainte contre l'État ou en tout cas amener du contentieux devant les juridictions pouvait leur causer du tort. Et ils décidaient de ne pas faire état de difficultés. Dorénavant, ils se sont appropriés finalement leurs droits. Ils les utilisent à juste titre et ils les font valoir comme tout citoyen devant les juridictions françaises.
Et alors, toi, avocat, comment tu t'es intéressé à ça? Parce que c'est pas évident quand même.
Absolument. Et moi, je suis tombé dans la marmite, finalement, de manière tout à fait accidentelle, puisque j'ai un excellent ami que je considère comme un frère, qui est forain, c'est Jean-Claude Pélex, qui était titulaire du carnet de circulation, qui un soir, après un repas, m'a montré son carnet et m'a dit « Voilà, aujourd'hui, je te le montre, j'en ai honte. Je suis citoyen français, mais je dois être titulaire et en permanence de ce carnet. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?
Est-ce que tu peux ? On l'a déjà dit, mais il y a un certain nombre d'émissions. Rappeler les contraintes de ce carnet.
Alors, ce carnet résulte historiquement d'un carnet anthropométrique qui résulte de la loi de 1912 qui prévoit que tout nomade doit être titulaire d'un carnet mentionnant la circonférence de leur visage, la taille de l'humérus, la taille de l'auriculaire, la taille du pied gauche, afin de pouvoir contrôler administrativement cette population. Ce contrôle résulte du paradigme selon lequel ces populations, dites nomades, constituent un danger pour la société et sont a priori suspectes. C'est la théorie positiviste italienne qui a été appliquée en France au début du XXe siècle. À la suite des vicissitudes et des tragédies qu'a connu la France durant les années 30 et puis plus durement durant la Seconde Guerre mondiale, les carnets ont servi à la préfecture et au service de l'État français et de la police française à interner les populations nomades. Elles étaient déjà fichées, il était facile de les retrouver et de les interner. Cet internement a duré jusqu'en 1946. De 1946 jusqu'à environ 1968-1969, il n'y a pas eu de modification particulière. Et en 69, une législation gaulienne prévoit des lois tout à fait particulières pour les gens du voyage, à savoir en premier lieu un carnet de circulation qui doit être visé par les autorités tous les trois mois, alors que ce sont des citoyens français, par leur titulaire. Ils doivent être évidemment possesseurs de ce titre. À défaut, ils risquent une peine de prison et une amende. Et pour les gens qui avaient certaines ressources, eh bien, ils sont titulaires de livrets de circulation qui, eux, doivent être visés un an, voire tous les cinq ans. Autre spécificité, et vous allez comprendre à quel point la discrimination est flagrante, pas plus de 3% sur les communes en termes de quotas de voyageurs. Et enfin, le vote à condition d'être rattaché durant 3 ans sur une commune. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut voter à l'âge de 18 ans, n'importe quel citoyen français peut voter, et bien là, il faut attendre l'âge de 21 ans pour pouvoir voter si on reste dans la même commune et si on est rattaché dans la même commune. Donc, un statut de sous-citoyen français. Et de 69 jusqu'à nos jours, il n'y avait aucun contentieux concernant ce carnet ou ce livret. Les voyageurs gardaient ces titres de circulation, les gardaient honteusement, n'en faisaient absolument pas état, et il n'y avait strictement aucun litige, rien n'avait été fait. Thank you.
Et alors, tu disais que tu étais tombé dans la marmite grâce à cette rencontre avec Jean-Claude. Et alors donc, si j'ai bien compris, ça t'a profondément indigné.
Absolument. Moi, j'ai été indigné parce que j'ai consulté son livret et je me suis rendu compte que finalement, il n'était pas tout à fait un citoyen ordinaire, c'était un sous-citoyen. Et il me racontait notamment en termes de discrimination que lorsqu'il faisait viser son livret, il devait aller au service de la préfecture, au service des étrangers, pour le faire viser tous les ans. Et il me disait, moi, je le supporte, mais mes enfants, à l'âge de 16 ans, je ne me vois pas avec mes enfants titulaires de ce carnet, puisque à l'âge de 16 ans, on doit être titulaire de ce carnet quand on est nomade. Il m'a dit, je ne veux plus pour mes enfants. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Et donc, nous avons décidé d'agir en justice d'une manière un petit peu particulière.
Et alors, c'est carrément le Conseil constitutionnel, si j'ai bien compris.
Absolument. Alors, nous avons, depuis le 1er mars 2010, une réforme constitutionnelle qui permet aux citoyens de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel d'une manière assez particulière, assez intéressante. Nous avons immédiatement provoqué un contentieux un petit peu prétextuel pour aller devant le Conseil d'État. Et lorsque nous étions devant le Conseil d'État, nous avons sollicité ce que l'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité qui consiste à faire contrôler la loi par rapport à la Constitution, c'est-à-dire à nos droits et libertés fondamentales.
Mais ce ne doit pas être évident comme démarche quand même. Enfin, je veux dire que tu as dû sérieusement potasser et t'armer avant de t'attaquer à ça, non ?
Absolument. Et cette démarche, fort heureusement, le passé universitaire m'a considérablement aidé. Mais surtout, nous avons eu quand même une formation au barreau de Marseille qui nous a permis de pouvoir monter ce contentieux et surtout nous étions seulement, je crois qu'on était complètement en terre inconnue. J'étais le deuxième avocat du barreau de Marseille à pouvoir plaider devant le Conseil constitutionnel et aujourd'hui le seul à avoir eu gain de cause devant le Conseil constitutionnel, tellement le contentieux est spécifique et plutôt technique et plutôt méconnu par l'ensemble des professionnels.
Et alors pour, j'allais dire, ça c'est une grande chose, mais alors pour des petites choses, enfin j'allais dire des petits conflits comme les histoires de terrain, d'occupation illégale du domaine public, etc. Comment ça se passe, je veux dire, est-ce qu'il y a des essais de médiation avant avec les municipalités ou est-ce que ça part tout de suite en vrille ?
Non, pas du tout. Moi, je suis. On essaie de mener de manière rationnelle et plutôt raisonnable et dépassionnée les choses. Nous essayons systématiquement une médiation auprès des élus pour faire en sorte que tout un chacun puisse disposer d'une solution amiable et équitable. Et malheureusement, si nous n'avons pas gain de cause ou si les élus violent délibérément les libertés fondamentales des citoyens nomades, eh bien, nous n'hésitons pas, évidemment, à faire valoir nos droits. La question s'est posée récemment avec l'affaire Estrosi ou l'affaire du maire de Cholet. Eh bien, nous avons décidé...
Tu rappelles en deux mots ces deux affaires.
Alors, évidemment, monsieur Estrosi, maire de Nice, vice-président de l'UMP, député, titulaire de la Légion d'honneur, a évidemment eu le mauvais goût de considérer les gens du voyage comme étant une population extrêmement suspecte, avec de grosses voitures, qui avaient de grosses caravanes que beaucoup de Français moyens ne pouvaient pas acheter et qu'ils allaient évidemment faire saisir les véhicules ou encore les mettre des caméras systématiquement partout pour les suivre parce que ce sont des délinquants potentiels. Et nous avons estimé que ces propos étaient haineux. Nous avons constaté également sur sa page Facebook des commentaires non effacées d'ailleurs, non effacées, sur lesquelles il fallait brûler les Roms ou brûler les nomades, et y compris leurs enfants, des propos absolument détestables. Nous avons décidé de réagir, les associations, les gens du voyage et les forains ont décidé de réagir sur ce point et de porter immédiatement plainte auprès du parquet de Nice pour dénoncer ces propos que l'on considère comme étant haineux et qui apportent un clivage absolument détestable entre les Français nomades et les Français sédentaires. bis repetita avec le maire de Cholet, qui va encore plus loin, puisqu'il estime que Hitler n'a pas parachevé son œuvre d'extermination concernant les gens du voyage. C'est une affaire qui a été finalement sortie par un journaliste qui a pu enregistrer ses propos de manière fortuite. Et évidemment, nous avons immédiatement saisi les pouvoirs publics, nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur, nous avons interpellé le garde des Sceaux, et évidemment porté plainte auprès du procureur de la République. Et nous espérons une condamnation sévère vis-à-vis de ces élus de la République qui n'ont aucune excuse, et surtout pas celle de l'ignorance, qui ont des responsabilités vis-à-vis de la nation, et qui veulent finalement faire des gens du voyage un enjeu purement électoral pour pouvoir récupérer des voix de l'extrême droite.
Voilà, je pense qu'il était bon de rappeler ça. Et retournons à nos petits moutons, c'est-à-dire les petits conflits.
Alors, les petits conflits qui sont dans certains cas des conflits extrêmement importants, puisque une famille qui n'a plus d'électricité, aujourd'hui, c'est concrètement plus avoir de frigo, des problèmes pour conserver les denrées alimentaires, des problèmes pour se chauffer, des problèmes pour pouvoir tout simplement assurer le quotidien. L'accès à l'eau ou l'accès finalement au sanitaire, c'est aussi une question cruciale, c'est une question de dignité humaine. Et dans la majorité des cas, nous sommes confrontés à des maires qui ne veulent pas accorder des branchements provisoires aux gens du voyage, alors que le juge administratif a estimé que le maire ne pouvait pas s'opposer à des branchements provisoires sur les terrains en zone agricole. Et malheureusement, eh bien, un certain nombre de maires ne jouent pas le jeu et me disent « moi, je préfère aller en contentieux et être condamné par le juge administratif pour pouvoir imputer la décision de branchement au juge administratif vis-à-vis de mes électeurs. »
Ah d'accord, carrément.
Voilà. Donc nous sommes dans une impasse. En revanche, il existe aussi d'autres élus qui, de bonne foi, imaginaient pouvoir finalement s'opposer à ce type de branchement et qui reviennent à la raison lorsqu'ils voient que les textes, finalement, ne leur donnent pas cette possibilité-là et se conforment à l'état de droit. Il y a aussi des élus qui sont absolument formidables, qui font le nécessaire pour les gens du voyage, qui font plus que ce que la loi les y oblige. Et je trouve que certains élus font un travail absolument remarquable de pédagogie, d'apaisement et d'intelligence vis-à-vis de cette population qui est à nouveau, qui fait partie de la nation et qui fait partie du paysage français.
Thank you. Et alors, toi, tu me dis que t'es tombé dedans, mais t'as des activités parallèles ou c'est ce genre de problème qui te prend tout ton temps ?
Non, ça, ce genre de problème, moi, ce genre d'affaires, si vous voulez, c'est une passion, mais c'est une passion également avec d'autres procès du type des affaires pénales que j'ai eu le plaisir de traiter. Je fais partie de la permanence pénale à Marseille, donc on a des affaires qui sont lourdes. Et je le vis un petit peu comme un sacerdoce, parce que j'aime énormément mon métier. Et je trouve que finalement, les individus ne sont pas si éloignés les uns des autres. Finalement, on est dans les mêmes passions, dans les mêmes vicissitudes, dans les mêmes difficultés. Et qu'on soit nomade ou sédentaire, finalement, c'est toujours une question de dignité, une question d'atteinte à la vie privée et familiale, une question d'égalité. Une question de traitement digne. Vous savez, quand vous êtes également dans une prison, que vous êtes détenu, que vous êtes à 7 ou 8 dans une prison, que vous avez des conditions d'hygiène absolument déplorables, telles qu'on les voit au Baumettre, on a beaucoup parlé jadis, je trouve qu'on n'est pas dans une situation qui soit véritablement très éloignée de celle de gens du voyage qui vivent dans un taudis parce que les pouvoirs publics ne remplissent pas leurs obligations vis-à-vis des aires d'accueil. Je pense que la dignité n'est pas sécable. Et que les droits fondamentaux irriguent l'ensemble des branches du droit, qu'elles soient dans le droit de la famille, dans le droit pénal, dans le droit des voyageurs, droit des nomades, dans le droit de l'urbanisme, etc. etc.
Et alors, c'est une question qui va paraître très bête, mais moi j'ai eu des contacts avec Henri Braun, qui est un défenseur des Roms, et... Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup d'avocats qui se préoccupent du monde des gens du voyage ?
Alors, c'est plutôt compliqué. Moi, je n'en connais pas énormément parce que je pense que pour comprendre les gens du voyage, il faut réaliser un effort d'aller dans le monde des gens du voyage et de faire fi un petit peu de l'altérité. On a peur. Je crois que le premier rapport qu'on peut avoir, c'est un sentiment peut-être de peur de l'inconnu, parce qu'on n'est pas habitué à être confronté à une population nomade. Et puis, quand on arrive à aller au-delà des apparences, au-delà de nos peurs un peu primales et primaires, eh bien, on se rend compte que finalement, il n'y a pas énormément de différences. Et que surtout, il y a un réel besoin de cette population de juristes et d'avocats. Et il faut aller impérativement à la rencontre de ces populations qui, dans certains cas, n'osent pas franchir le pas et aller dans un cabinet d'avocats. Il n'est pas question de faire du démarchage, je dis pas ça. Mais je pense aussi qu'il faut faire preuve d'une certaine pédagogie vis-à-vis de cette population et surtout les rassurer. Leur faire comprendre que c'est une main tendue et qu'il n'est pas question de faire tout et n'importe quoi et surtout pas de s'immiscer ou de leur voler leur contentieux ou d'agir à leur place ou de parler en leur nom sans les consulter. Nous sommes juste des porteurs nous sommes juste des scribes où nous mettons des mots sur des situations, mais en aucun cas nous ne pouvons nous substituer à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils veulent.
Et alors, c'est une question que j'avais pas prévue du tout, qui me vient comme ça. Jean-Claude disait tout à l'heure que, entre autres choses, ils ont d'énormes difficultés pour accéder au crédit, et j'entendais il y a pas longtemps que de nombreux assureurs refusent d'assurer les caravanes, par exemple. Moi, je trouve ça totalement hallucinant. Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose à faire ?
Oui, parce que c'est un refus de vente. Aujourd'hui, assurer une caravane, assurer un véhicule, assurer un camion, c'est une obligation légale. On ne peut absolument pas circuler si de tels véhicules ne sont pas assurés. Et en même temps, les assureurs considèrent qu'une population nomade est forcément une population à risque, à fraude, et ne veut pas procéder à l'édition de police d'assurance. Eh bien, moi, je dis que c'est un refus de vente. Le refus de vente est sanctionné très sévèrement par le droit français. Et il est nécessaire, je pense, pour les pouvoirs publics, je pense qu'au niveau ministériel, au niveau parisien, au niveau national, il est nécessaire de rencontrer plusieurs acteurs autour d'une table et de faire en sorte que des représentants des banques, des représentants des assurances puissent faire en sorte de s'engager à nouveau à réaliser des efforts substantiels pour permettre de manière égalitaire l'accès au crédit, l'accès au logement et de bien comprendre que les gens du voyage ne demandent pas plus de droits que les sédentaires. Ils ne demandent pas une faveur, ils ne demandent pas des crédits là où les sédentaires n'auraient pas droit de crédit. Pas la question, ils demandent tout simplement d'être traités de manière égale et non pas différente ou du moins être considérés comme des sous-citoyens ou des sous-français ou des sous-consommateurs.
Alors, je vais te... C'est pas souvent que j'ai un gadjo en face de moi dans cette émission. Ça arrive, mais pas souvent. Et y a une question que je pose aux uns et aux autres. C'est que depuis le départ, on me dit, Oui, c'est des citoyens français comme nous, mais il y a une différence entre les gens du voyage et les sédentaires que nous sommes. Alors pour toi, quelle serait la différence essentielle ?
Une volonté de conserver leur culture et leurs traditions avec acuité. Je pense qu'ils ont une conscience aiguë, qu'ils sont titulaires d'une tradition particulière, d'une culture particulière, qu'ils veulent impérativement transmettre. Et ils ne veulent pas se diluer dans la population. Ils veulent les mêmes droits, ils veulent être considérés de la même manière, mais ils ne veulent pas se diluer, se dissoudre dans la population. Ils veulent garder leur spécificité. C'est égaux, mais différents. Et c'est, à mon sens, cela, la fraternité.
Alors, la toute dernière question, c'est justement la question que je t'ai pas posée, c'est-à-dire, est-ce que tu voudrais profiter du micro pour toi dire quelque chose sans être questionné?
Oui, absolument. Moi, j'invite tout à chacun à envisager une réflexion en se disant, et finalement, si c'était moi qui étais dans la discrimination ou dans la difficulté, quand on regarde quelqu'un qui est en grave difficulté, notamment des voyageurs, on tourne la tête, on passe la seconde ou la troisième, et puis on roule et on oublie. Et je crois que tout un chacun doit prendre conscience que ce sont des individus comme tout un chacun, et il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un regard différent. Pas de compassion, on ne demande pas de la compassion, on demande tout simplement finalement un regard neutre et peut-être plus respectueux de la personne, et surtout ne pas tomber dans des considérations haineuses et ne pas céder à la tentation de la passion vile de certains élus qui excitent les bas sentiments de certains. De ne pas tomber dans ce piège-là, cette montée d'une bête absolument immonde que l'on voit poindre malheureusement dans ces temps relativement troubles.
Eh bien, un grand merci, Olivier.
Je vous remercie.
Et puis, la chaudrome.
Absolument. Merci infiniment.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter la chaudrome. Et puis, pendant le générique de fin, je vais vous lire aussi des petits poèmes. Aujourd'hui, ce sont des poèmes d'une Rome polonaise, dont je vais essayer de pas trop écorcher le nom. Elle s'appelait plus exactement Bronisława Wajda. Et elle avait un surnom, c'était Papouchka. Le premier texte a pour titre « Sur la bonne route ».
Sur la bonne route, nous avons fait halte. Nous avons remercié les grands messieurs et plus que tout, notre tête en or, Jerzy Fiskovski, père Rome. C'est lui qui nous a introduits en ville et nous a fait connaître avec les gadgets. Sur la bonne route, nous avons fait halte. Ce qu'ils ont dit, nous l'avons fait. Nous aussi voulons nous installer pour envoyer nos enfants à l'école. De nous tombera cette obscurité et les esprits impurs. Nous y vivrons bien, comme tous les gens. Et les anciens, hommes et femmes, pleureront. Ils évoqueront le temps jadis, les forêts, les ruisseaux vifs, les montagnes et les feux. Les vieux tziganes ont l'âme comme de la pierre. Dans la forêt, ils avaient grandi, et pierre, ils sont devenus. Les messieurs d'autrefois, ce sont eux qui ont habitué les Roms à cela en les chassant toujours plus loin d'eux, ces infortunés Roms, chassés dans les bois où les âmes romanies se sont pétrifiées et où les gadgets les traitaient de voleurs et de chiens. Le deuxième texte a pour titre « Nous ne voulons pas de richesse ». Nous ne voulons pas de richesse, nous voulons vivre. La pluie, le vent et les larmes, ce sont eux les bonheurs tziganes. Car en eux est née l'âme qui a été conçue avec le sang. La vraie tziganité, les rires et les larmes. Vous, mes oiseaux, j'aimerais baiser vos becs. Comme ils sont beaux quand vous chantez, vous ravissez toute mon âme. Mes beaux petits oiseaux, qui vous écoutera quand il n'y aura plus de rhum dans vos bois? Qui vous laissera des miettes? Mes oiseaux, petits et grands, tous, venez, tous près de moi, chantez pour moi une chanson, vous, pour moi, moi, pour vous, pour que vous chantiez pour les autres. Je marche de forêt en forêt, je n'ai pas trouvé cette trace, je n'ai trouvé qu'un petit feu. Là était debout une tzigane, infortunée, une pauvre être. C'est ça, le tzining, tzigane. Thank you.